Europe 1. Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte.
C'est une affaire dont vous avez forcément entendu parler, l'affaire Jeffrey Epstein. Du nom de ce multimillionnaire américain, amateur de Lolita, qui a violé des dizaines d'adolescentes après avoir monté à son service un réseau de prostitution de mineurs. Cette histoire, je vais vous la raconter dans l'ordre et dans les détails. Elle est stupéfiante et terrifiante d'un bout à l'autre pour le système judiciaire américain. Je l'ai écrite avec Thomas Oudouard, réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Un mot sur le coco avant de commencer. À la fin des années 90, Jeffrey Epstein est très riche. Sa fortune est évaluée à 636 millions de dollars. Il est parti de rien. Il s'est enrichi en montant des magouilles financières au service des loups de Wall Street. Il est riche et donc puissant. Et il pense que ça le met à l'abri de tout. C'est en 1996 que tout commence. Une première affaire qui aurait dû emmener Epstein en prison. Et qui va se terminer le bec dans l'eau. Elle s'appelle Maria. Elle vient de terminer ses études de beaux-arts à New York. Et à la fin de l'année, son école organise une expo pour toute la promo. Maria y présente trois tableaux sur la même thématique un peu fleur bleue d'adolescentes peintes dans leur intimité, avec un tout petit bout de nichon qui dépasse, mais pas plus. Bonjour mademoiselle, c'est vous qui peignez ces magnifiques toiles?
Oui,
c'est moi. Oh, ça me plaît beaucoup. Je vous les prends toutes les trois. Vendu en quelques dizaines de minutes. Bien joué, Maria. Et là arrive la directrice de l'école.
Dis-moi, Maria, le couple, là, ils veulent absolument acheter vos tableaux. Mais madame, c'est pas possible, je viens de les vendre à ce monsieur-là.
Ouais, ben, tu vas aller lui expliquer que finalement, ben, tu les avais déjà vendus, d'accord? Et là, la directrice lui dit que le monsieur qui veut absolument acheter ses tableaux est un donateur important pour l'école, un certain Jeffrey Epstein. Et donc Maria est priée d'aller expliquer à son premier acheteur que non, finalement, ses toiles ne sont plus à vendre et qu'elle est désolée. Et de fait, elle est désolée parce que ce qui est rageant pour elle, c'est que le gars achète les tableaux deux fois moins cher que le premier.
Allez, viens ma belle. Je vais te présenter Monsieur Epstein.
Viens.
Monsieur Epstein, je vous présente Maria.
Ah, mademoiselle. Oh, nous avons eu un vrai coup de cœur pour vos tableaux. Je sais que vous avez dû faire un petit sacrifice pour le prix, mais on vous revaudra ça, hein? Vous inquiétez pas. Vous êtes très jolie, mademoiselle. Quelques mois plus tard, Maria reçoit un coup de fil d'Epstein.
Bon, je me doute, ma jolie, que tu veux te lancer dans une carrière de peintre, hein? Bon, en tout cas, tu le mérites, hein? Et moi, j'ai envie de t'aider. Écoute, je viens d'acheter un hôtel particulier à New York, là, sur la 71e rue. Bah, je te propose d'en devenir la gardienne. Comme ça te permettra d'avoir un petit pécule, quoi, pour développer tes talents d'artiste. Qu'est-ce que t'en penses?
Ce qu'elle en pense? Eh bien, du bien. Beaucoup de bien. C'est inespéré. Et donc, voilà Maria aux premières loges, chez Jeffrey Epstein, à New York.
T'as des sœurs, Maria?
Oui, j'en ai deux.
Et qu'est-ce qu'elles font dans la vie, tes sœurs?
Eh ben, ma sœur Annie, elle espère intégrer une grande université. Elle le mérite, hein, parce que elle est très intelligente, ma sœur.
Et là, Epstein magnanime propose de payer les études de la sœur, en lui conseillant au passage de faire un peu d'humanitaire avant de commencer, pour apprendre la vie. Mais en vérité, c'est lui qui va se charger de lui apprendre la vie. Côté sombre. Car très vite, Jeffrey Epstein et sa compagne, Ghislaine Maxwell, proposent à Annie de venir passer un week-end dans leur ranch du Nouveau-Mexique. Elle dit oui. Elle se dit, ça sera un week-end de fête. Il y aura plein de gens. Elle va bien rigoler. Mais quand elle arrive au ranch, elle s'aperçoit qu'elle est seule avec eux. Dis-moi, ma petite Annie, ça te dirait que je te fasse un massage? Tu sais, je fais de très bons massages. Hein, je suis une vraie experte. Ok, va pour le massage. Jusqu'à ce qu'à un moment, Ghislaine Maxwell se mette à lui peloter les nibards. Et Annie n'a encore rien vu. Le lendemain matin, Jeffrey entre dans sa chambre. Oh, t'inquiète pas, Annie, t'inquiète pas. Je voudrais juste te faire un petit câlin. Et là, il se glisse sous ses draps et il commence à la tripoter. Des caresses, hein, rien de plus. Mais Annie est terrorisée. Elle court s'enfermer dans la salle de bain. Et puis, comme prévu, elle s'envole pour ses missions humanitaires au Vietnam et en Thaïlande. Et elle ne dit rien à personne de ce qui s'est passé. La petite sœur s'est envolée. Ah ben retour à la grande sœur, Maria, la jeune artiste peintre, concierge des Epstein à New York. Elle ne sait pas, Maria, que sa petite sœur Annie a failli passer à la casserole. Dans les jours qui suivent, elle reçoit un appel d'Epstein.
Vous savez, Maria, je crois beaucoup à vos talents de peintre. Alors, je vais vous faire une proposition. Je mets à votre disposition ma villa de New Albany, dans l'Ohio. Là-bas, vous aurez tout le loisir de peindre. Dans un décor de rêve, en plus. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Une résidence d'artiste dans un décor de luxe? Ça ne se refuse pas. Et donc Maria part pour l'Ohio avec ses toiles et ses pinceaux. Et un week-end, oh surprise, Jeffrey et Ghislaine viennent lui rendre visite. Et le premier soir, Ghislaine vient la voir. Dis-moi Maria, Jeffrey aimerait que tu lui masses les pieds. Ça te dit? En vérité, ça ne lui dit rien. Mais c'est son bienfaiteur. Alors d'accord. Et c'est parti pour le massage des panards de monsieur, en présence de madame. À un moment donné, elle se retrouve coincée entre les deux. Et ils se mettent à la tripoter, tous les deux.
Ça va aller, Maria. Ça va aller. Tout ira bien.
Non. Non, tout n'ira pas bien. Maria bondit vers sa chambre, elle tire une commode devant sa porte et elle reste barricadée jusqu'au lendemain, jusqu'à ce qu'il quitte la villa. Et là, elle appelle sa petite sœur, Annie.
Annie ? Annie, je veux savoir s'il s'est passé quelque chose quand t'étais dans leur villa au Nouveau-Mexique. Parce que moi, Annie, ils ont essayé de me violer. Tous les deux.
Ah bon ? Toi aussi ?
Et Annie raconte tout à sa sœur Maria. Le lendemain, Jeffrey Epstein l'appelle.
Tu veux de l'argent ? Je veux dire, pour pas raconter. Pas de problème, dis-moi combien.
Mais Maria, ce n'est pas l'argent qu'elle veut. C'est sa peau. Alors le lendemain, elle va à New York et elle porte plainte. Et après, il se passe rien. Rien. Les mois passent. Et Annie comprend que ce Jeffrey Epstein est riche et puissant. qu'il a le bras long et qu'il n'y aura pas de suite. Et voilà, tout ça reste enterré pendant des années. Sept ans plus tard, en 2003, Espoir, une journaliste américaine du magazine Vanity Fair, prend contact avec Maria.
Voilà, mademoiselle, on m'a chargé de faire le portrait de Jeffrey Epstein. Et alors, figurez-vous que j'ai entendu parler d'une plainte que vous auriez déposée contre lui, c'est ça, il y a quelques années ?
Ouf ! Ça va sortir ! On va savoir. On va savoir que ce sale type bourré de fric est un gros dégueulasse. Sauf que le rédacteur en chef a lu le papier de sa journaliste, que la veille, il a retrouvé son chat décapité dans son jardin et une balle de revolver sous son paillasson. Alors,
il va falloir retirer quelques passages de ton article. Tu comprends, on manque de preuves, quoi. Il faudrait pas qu'on soit attaqué en diffamation, quoi. Il a le bras long, tu sais, ce type. Et puis alors, il a toute une armée d'avocats.
Et voilà. Emballé, c'est pesé. L'article paraît sans aucune allusion à Maria, ni à sa sœur Annie. Mr. Epstein peut tranquillement poursuivre sa carrière de millionnaire prédateur. Elle est pas belle, la vie. Et donc Epstein reprend sa vie d'homme d'affaires. D'hommes d'affaires auprès des hommes les plus riches et les plus puissants des États-Unis. Et quand je dis puissant, je dis puissant. Depuis 1990, Epstein a une villa à Palm Beach, en Floride. Et vous savez qui est son voisin ? Donald Trump. Sa résidence ultra-luxueuse de Mar-a-Lago est juste derrière la haie du jardin. Vous passerez boire un verre, Jeffrey. Mais avec plaisir, Donald. À la fin des années 90, Donald Trump, futur président des États-Unis, déclare
« Jeffrey, je le connais depuis 15 ans. C'est un mec génial. En plus, on dit qu'il aime les belles femmes, autant que moi. Surtout quand elles sont jeunes. »
Le porc ! Les porcs ! Et pour Jeffrey, eh bien la vie continue. Tranquille. La semaine à New York, pour les affaires, et le week-end dans l'une de ses nombreuses villas, et surtout à Palm Beach.
Je suis très heureux d'offrir 100 000 dollars à la police de Palm Beach, afin qu'elle puisse acquérir de nouveaux équipements.
Et ça dure comme ça jusqu'en 2003. Jusqu'à ce que ses voisins, à Palm Beach, soient intrigués par le ballet de jeunes filles qui viennent tous les week-ends dans la villa du millionnaire.
Elles sont très jeunes, non ? Tu trouves pas ? Et puis alors, ça défile, hein ? Faut en parler à la police. Je vais appeler la police.
Donc un jour, des policiers fédéraux débarquent chez Epstein et ils tombent sur trois Lolitas. Bingo ! Ah ben non, d'abord elles sont toutes les trois majeures et en plus, elles disent toutes les trois être des employés de son entreprise. Au revoir monsieur, pardon de vous avoir dérangé. Normal en même temps, elles sont majeures et visiblement volontaires. Jeffrey Epstein peut reprendre une vie normale. Mais jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? Un jour, il va tomber. C'est sûr. Il va forcément tomber. Deux ans plus tard, en 2005, la police de Palm Beach est alertée par des parents.
Voilà. Ça s'est passé quand notre fille avait 14 ans. Elle nous l'a dit qu'aujourd'hui. Elle a été violée par un homme. Dans une villa Très luxueuse d'après ce qu'elle dit de Palm Beach.
Chez qui? Elle vous l'a dit?
Non. Non, mais elle est capable de reconnaître le quartier. Et elle dit en tout cas qu'elle reconnaîtra la villa.
Et c'est la villa de Jeffrey Epstein, bien sûr. 14 ans! Cette fois-ci, il est cuit, le coco. Mais si, 14 ans! Mais j'ai l'impression que vous aussi, vous avez un doute sur la suite. Mais bon, une enquête est ouverte. Et très vite, les policiers se disent, si elle y est passée, il y en a forcément eu d'autres. Il y en a forcément eu d'autres. Alors ils se lancent dans un travail de fourmi. Et ils identifient une, deux, trois, quatre gamines qui sont passées par la villa d'Epstein. Des adolescentes d'à peine 17 ans en général. Et leur récit commence toujours de la même manière.
D'abord, il m'a demandé de lui faire un massage.
Il commence toujours par un massage. D'abord couché sur le ventre, et après sur le dos. Et là, garde à vous fixe. Parfois il les tripote, parfois il se masturbe. Il fait comme ça avec toutes les filles que les flics ont identifiées et interrogées. Mais pourquoi n'avez-vous pas porté plainte, mademoiselle? C'est extrêmement grave ce qu'il vous a fait.
Ben, il me donnait $200 chaque massage.
$200 pour des adolescentes souvent pauvres, c'est beaucoup. Et c'est le prix de leur silence. Mais les policiers de Palm Beach ne lâchent pas l'affaire. Ils collent des caméras devant sa maison. Et ils se mettent en planque à l'aéroport quand il débarque de son jet privé. Clic-clac, la main dans le sac. Et la liste des victimes s'allonge tous les jours. Shona, par exemple.
D'abord, il m'a demandé de lui faire un massage. C'était en 2002. J'avais 14 ans. Mais j'avais pas d'argent. Je venais d'une famille. Enfin, disons que ma mère était toxico et mon père était en prison pour meurtre. Et là, une copine m'a dit, je connais un moyen de gagner de l'argent. Il fallait faire des massages à un homme. Alors j'ai dit d'accord.
Vous aviez déjà eu des relations sexuelles, mademoiselle?
Mais enfin, j'avais 14 ans, monsieur. Bien sûr que non.
Il s'est masturbé et il a éjaculé sur elle. 14 ans. Et après, il lui a montré la commode près du lit. Et dessus, il y avait $200, le prix du massage. Voilà. Au revoir, mademoiselle. Et à la semaine prochaine. Ça a duré 3 ans. Et à chaque fois, Shona revenait pour l'argent. Et au passage, elle dévoile aux policiers le système Epstein. Une masseuse fait venir une copine, qui fait venir une copine, qui fait venir une copine. $200 le massage et une commission pour la rabatteuse. Holly était une de ses filles. Elle avait 16 ans quand elle a rencontré Jeffrey Epstein. C'est une amie de lycée qui l'a jeté dans ses griffes. Mais ça s'est mal passé. Quand il s'est agi de passer du massage à la suite, eh ben elle a dit non.
C'est hors de question, vous entendez? Il pensait même pas.
D'accord, d'accord. T'as un fichu caractère, toi. Hein? J'aime bien ça. Dis-moi, ça te dirait de me ramener des filles? Je te paierai pour ça, bien sûr.
Mais quel genre de fille?
Ben, des copines de ton âge. T'as quel âge, toi?
J'ai 16 ans.
Ah ben, tes copines de 16 ans, les filles de ton lycée, quoi. Ça me conviendra très bien. Tu leur diras que c'est $200 pour un massage.
Elle a résisté pour elle-même, mais elle dit oui pour en ramener d'autres.
Et vous avez une idée de combien de filles vous lui avez ramenées, mademoiselle?
Je sais pas. Plus de 20. Je dirais 23 ou... Plutôt 24. Oui, 24.
Et
Elle les a menés à elle-même chez Epstein, tout en sachant très bien ce qui allait se passer. Et elle attendait sagement aux portes de la piscine. Ce qui, au passage, consacre cette fille, Honey, comme une complice du crime, comme une mère maquerelle. Mais au fil des interrogatoires, les policiers finissent par comprendre qu'elle a été manipulée. En vérité, c'est un réseau de prostitution pyramidale qu'Epstein a constitué au fil des années. Une copine qui amène une copine, laquelle en ramène une autre, avec une petite commission pour chacune au passage. Le principe des réunions Tupperware appliqué à la prostitution de mineurs. Et tout en haut de la pyramide, un fucking pervers. Un putain de fucking pervers. Et tout ça, maintenant, la police le sait. La suite de cette affaire terrifiante et titanesque dans un deuxième podcast disponible dès maintenant sur votre plateforme habituelle.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.